Interview.
1 du jour.
Bonjour, ici Erdivois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc en Divois. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes avec deux personnes, à commencer par Émilie Lapran. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Baptiste Boyer, bonjour.
Bonjour.
Alors, Émilie Lapran, vous êtes chargée de mobilisation et transition énergétique au sein de DIWAT. Et Jean-Baptiste Boyer, vous êtes président directeur général de DIWAT. Est-ce que c'est toujours d'ailleurs une société coopérative d'intérêt collectif?
Alors oui, c'est toujours une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. On a juste fait évoluer notre gouvernance, parce que ça s'appuie sur des statuts juridiques de sociétés plus classiques. Et donc maintenant, on a un directoire, un conseil de surveillance. Et ce qui fait que j'ai été nommé président directeur général et plus gérant, comme je pouvais l'être il y a quelques années de ça.
On peut aussi présenter ce que propose DIWAT aux auditeurs.
Alors, DIWAT, c'est un opérateur énergétique territorial. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est deux choses. C'est à la fois une partie de conseil et de développement auprès de tous les maîtres d'ouvrage. Alors, tous les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire à la fois les particuliers pour, par exemple, des petits projets photovoltaïques chez eux, mais à la fois aussi pour des collectivités, des opérateurs privés, avec des projets qui peuvent être de taille industrielle. Et le but, c'est d'accompagner, tant sur ce volet conseil avec des équipes d'études qui sont là, sur les projets, mais aussi d'être financeur, puisque la plupart des projets qu'on réalise nous appartiennent, enfin, ils appartiennent à la société coopérative. Et donc, on est derrière producteur d'énergie. Donc, on est présent en plus maintenant sur beaucoup de filières qui touchent à la transition énergétique, puisqu'on a commencé avec le photovoltaïque en 2016-2017. Puis maintenant, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais on a des chaufferies bois pour alimenter en chaleur des écoles ou des espaces de coworking, typiquement. Et puis, on est maintenant aussi présent sur l'efficacité énergétique, donc tout ce qui va permettre de réduire les consommations. Et puis, sur la partie éolien, où on pousse l'éolien citoyen, comme on dit, l'éolien qui est maîtrisé par le territoire et ses habitants.
Vous êtes ici aussi pour nous annoncer deux rendez-vous que vous donnez pour ce mois d'octobre, à commencer celui du 15 octobre à 16h. Il s'agira d'une intervention au sein de la Fête de la Forêt qui est organisée ce week-end. Donc, quelle est votre implication justement sur cet aspect de la Fête de la Forêt?
Alors, cette Fête de la Forêt, elle est organisée par la communauté de communes du Diwa, qui nous a invités en fait à participer à une table ronde qui aura lieu le samedi après-midi à 16h, dans laquelle DIWAT en fait viendra présenter notre approche du bois énergie, comment nous on souhaite travailler sur le développement d'une filière territoriale et locale, et on pourra discuter de tous ces enjeux autour du bois énergie avec différents autres acteurs du territoire, à la fois l'ONF, la LPO, les élus. Voilà, donc ça c'est pour le premier rendez-vous qui est tout bientôt, ce samedi. Et le deuxième qui aura lieu la semaine prochaine, mardi matin, on vous donne rendez-vous à 11h sur le champ de Mars de Luc-en-Diois pour inaugurer en fait plusieurs toitures partagées qui reçoivent en fait du photovoltaïque sur la commune de Luc-en-Diois, à la fois des bâtiments en fait qui sont publics, typiquement la mairie, la piscine, la déchetterie par exemple, mais aussi des bâtiments privés avec certaines habitations, des entreprises qui ont choisi du coup d'installer des panneaux photovoltaïques sur leur toiture.
Je reviens un peu sur la journée du 15, hein, sur le bois, l'aspect du bois. Ça, c'est aussi une de vos facettes.
Ben oui, c'est une, cette année là, cet hiver sera les premières, comment dire, la première chaleur vendue, produite et vendue par Diwatt. C'est une activité du coup assez récente, mais qui je pense fait suite à pas mal de travail qu'il y a eu sur le territoire depuis plusieurs années sur comment on gère correctement notre ressource forestière et s'assurer qu'il y a de la ressource pour se chauffer au bois. Et puis, nous, notre intervention, qui est beaucoup plus sur comment on chasse les combustibles fossiles du territoire, grosso modo, et donc comment on les remplace par des sources renouvelables. Et donc, nous, on va intervenir uniquement en fait, sur des projets dits collectifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore présent, peut-être on le sera un jour, mais en tout cas, ce n'est pas pour le moment. On n'est pas présent auprès des particuliers là-dessus. Mais par contre, on vient installer des chaufferies soit à plaquettes forestières, soit à granulés, pour délivrer de la chaleur du coup, à des lieux. Donc, j'en citais tout à l'heure, hein, école, espace de coworking, EHPAD, hôpital, quand on en aura un peu fixé sur dit. Voilà, enfin tout un tas de sites collectifs ou même pour des entreprises, hein, aussi, avec l'idée d'une intervention toujours assez groupée et simple, c'est-à-dire que on étudie tout l'aspect technique et derrière on est capable de financer l'installation de sorte que vous n'ayez qu'une facture en fait de chaleur à la fin, vous payez en gros au kilowattheure consommé. J'ai envie aussi de préciser juste que ce dispositif, enfin, il y a un dispositif aussi plus global qui est porté sur l'ensemble du territoire de Biovallée qui s'appelle un contrat de chaleur renouvelable, qui est du coup un contrat porté par les trois intercommunalités et qui permet à tous les maîtres d'ouvrage, pareil, qui sont personnes morales, d'être accompagnés en phase d'opportunité, donc pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour changer sa chaudière fuel, par exemple. Et donc d'être accompagné, d'avoir accès à des ressources techniques, mais qui sont complètement financées à 100% pour la phase d'études. Et ensuite de bénéficier de subventions d'aide à l'investissement, en gros, au moment du passage à l'acte, que ce soit avec nous, DIWAS, ou en direct pour les maîtres d'ouvrage qui souhaitent aussi faire leur part sans avoir recours à la coopérative.
Votre implication dans la filière bois par rapport au chauffage démarre à quelle position ou quel échelon ?
Pour l'instant, on est vraiment uniquement producteur de chaleur. C'est-à-dire qu'on va, nous, acheter du granulé ou de la plaquette forestière pour la brûler dans nos chaufferies collectives. Mais pour l'instant, on n'est pas présent plus en amont de ça sur la filière.
Justement, cette utilisation de matières renouvelables comme le bois permet un taux d'économie comparable à celui du fioul, par exemple. Quelle est la rentabilité ou l'avantage ?
Alors, j'ai pas de formule précise sur à quel point on fait des économies tout de suite, etc. Surtout en ce moment, en fait, où les prix des différentes matières premières ou des différents combustibles, en tous les cas, sont quand même très variables. Après, le granulé reste quand même moins cher que le fioul, de loin. Après, c'est la question souvent de l'investissement qui reste à amortir. Mais aujourd'hui, avec les niveaux d'aide qu'il y a, même avec des prix de granulé en hausse, enfin, si on prend le granulé qui est le cas le plus défavorable, on reste quand même sur quelque chose qui est intéressant financièrement, au-delà du fait de dire on arrête de brûler du pétrole.
Les granules sont faites à partir de quel bois ?
Ouais. Alors, un truc qui est intéressant, notamment pour le territoire, c'est le fait qu'il y a beaucoup des plaquettes ou des granulés qui sont faits à partir de résineux. Donc, typiquement, le pain, enfin, parmi les pains qu'on peut avoir chez nous. Avec deux choses assez différentes, c'est-à-dire que si on parle des plaquettes forestières, c'est des choses où on peut avoir un circuit ultra court, c'est-à-dire on peut les bûcheronner chez nous et avoir une plaquette forestière qui va parcourir, moins de 50 km, on va dire, entre sa zone d'abattage et puis l'endroit où elle est brûlée. Et donc évidemment, sur une chaîne aussi courte que ça, on imagine que la quasi-totalité des retombées, elles sont sur le territoire, contrairement toujours à la référence qui est une facture de fioul qui vient d'assez loin. Et même pour les granulés, alors sur les granulés, on est sur un schéma un petit peu différent, puisque donc, aujourd'hui, la région Auvergne-Rhône-Alpes est plutôt exportatrice de granulés. Et donc, en fait, ils viennent majoritairement d'usines à granulés qui sont à côté de grandes scieries. Et donc, on est sur la valorisation de déchets de bois. Et donc, on est sur des essences multiples. On n'est pas un lien direct arbre-granulé. Mais ça reste des choses qui, pour Dee, par exemple, Dee et le Diwa, si on prend les gens qui livrent sur le Diwa, on va être sur des rayons d'action de plutôt 100, jusqu'à 150 km, on va dire, entre l'endroit où le granulé est fabriqué, mais donc juste à côté de là où il est récupéré en tant que déchet, quoi, jusqu'à la chaufferie. Voilà, donc c'est un peu plus long, mais on reste quand même toujours sur des filières beaucoup plus courtes que le pétrole du Moyen-Orient.
Les trois intercommunalités, comme vous dites, sont donc attelées à ce sujet. Est-ce qu'il y a justement une réflexion sur une mutualisation peut-être de moyens de transformer ce bois en granulé ?
Alors, au niveau des intercommunalités, à ma connaissance, non. Mais parce que aussi... C'est relativement nouveau, on va dire, dans le débat, qu'une pertinence économique soit possible. Mais parce qu'on a vu là un prix du granulé multiplié par peut-être deux, quelque chose comme ça. Donc y a des réflexions sur des plateformes de transformation du bois, mais plutôt pour avoir, je sais pas, du bois bûche de qualité, pour avoir de la plaquette forestière de qualité. Donc ça, oui, il y a des réflexions qui sont à des stades différents selon les intercommunalités. En revanche, les usines de granulés, ou en tout cas les lieux de production de granulés, c'était plutôt pas dans les cartons pour l'instant.
Juste une petite précision, qu'est-ce que vous définissez par plaquette forestière ?
Les plaquettes forestières, c'est comme des gros copeaux de bois, mais en fait c'est du bois qui est broyé. Qui fait des gros copeaux, je sais pas comment le dire, parce qu'en plus je peux pas le montrer, enfin, je peux vous le montrer à vous, mais ça va être assez limité. Mais voilà, c'est du gros copeau de bois en comparaison du granulé qui est vraiment là de la surcompactée.
Et c'est certainement la partie plaquette bois, du coup, quelque chose qui est déjà plus adapté économiquement par rapport au territoire du Diwa, en tout cas, où c'est beaucoup plus évident et facile de mettre en place des plateformes de transformation, de faire se concerter les acteurs, que ce soit exploitants agricoles, scieries, bûcherons, etc. Et ça demande également moins de transformation que le granulé, comme vous aurez pu le comprendre.
D'ailleurs, le processus de granulé, peut-on l'expliquer ? C'est du bois, mais comment est-il mis en granulé ? Est-ce qu'il a besoin d'un liant ou alors c'est juste par pression ?
Non, alors c'est pareil, je suis pas un grand spécialiste, ce que j'en sais, effectivement, c'est de la sure qui est compactée et qui, je crois, légèrement chauffée en même temps. Et c'est, je crois, l'évaporation de l'eau qui est à l'intérieur qui fait que ça, que c'est aggloméré finalement et que ça, entre guillemets, tient tout seul. Mais ce qui fait que ça reste aussi relativement fragile. Hein, quand vous en prenez en main, si vous appuyez un peu dessus, ou c'est pareil dans les livraisons, si c'est un peu malmené, ça se transforme plutôt en poussière directement. Mais non, il n'y a pas, de liant en plus qui est ajouté.
Et peut-être, comme l'expliquait Jean-Baptiste, je reviens sur l'intérêt du coup par rapport au territoire du Diwa, de développer la plaquette de bois et du coup les chaufferies, des chaufferies du coup de taille plus importante. En général, les chaufferies qui sont alimentées en plaquettes sont plutôt pour des espaces, comme on le disait, collectifs. Mais ça porte déjà sur beaucoup de situations qui peuvent concerner à la fois des communes, des institutions, mais également des entreprises privées en tertiaire, quand il y a besoin en fait de chauffage sur des installations importantes. Et la ressource, elle est existante dans le Diwa, elle demande à être de continuer à être organisée, mais elle est là.
Nous passons ensuite au mardi 18, donc un rendez-vous est donné à Luc en Diwa pour inaugurer plusieurs toitures partagées et qui sont photovoltaïques. Ça commence à 11h et le rendez-vous est sur la place du Champ de Mars. Alors, quels sont justement ces partenaires sur lesquels sont inaugurées ces toitures ?
Alors, le premier partenaire est de taille, c'est celui de la commune de Luc-en-Diois, puisqu'il y a une commune particulièrement intéressée au développement du photovoltaïque, qui a du coup développé des toitures partagées avec Diois à la fois sur le bâtiment de la mairie, sur des gîtes communaux, sur la piscine. Ensuite, la communauté de communes du Diois est également présente avec la déchetterie qui a été équipée en toiture photovoltaïque, mais également en fait des habitants et notamment des partenaires proches de la société Diois avec des installateurs, notamment Artisan Énergie en fait, qui est un des installateurs présents et habitants de Luc-en-Diois et qui a équipé à la fois sa maison et qui est en train d'équiper son bâtiment de travail. Et donc voilà, et il y a encore en cours du coup des bâtiments agricoles dont les travaux vont débuter en fait plutôt en 2023. Donc c'est une commune assez exemplaire puisqu'elle nous permet en fait de montrer comment différents types d'acteurs, que ce soit des privés et publics, avec des tailles également différentes, peuvent développer en fait des solutions avec des toitures photovoltaïques, à la fois en termes de taille, mais aussi en termes de montage technico-administratif, si on peut dire.
Par rapport à justement cette production d'électricité par ces capteurs photovoltaïques, quel est le permet d'alimenter, quelle possibilité d'alimentation peut-on en tirer pour Luc, hein?
Alors, une bonne question. C'est vrai que nous, c'est pas les trucs qu'on regarde en plus à chaque fois, mais on a, je crois, en tout maintenant quand même une dizaine d'installations à Luc. Alors, en puissance installée, etc. Non, je ne saurais pas vous. Enfin, ça, c'est, on n'alimente pas encore tout Luc-en-Diois, hein, loin de là. Non, je ne saurais pas vous dire.
Disons que comme c'est nouveau, il n'y a pas encore de bilan sur cet aspect-là. Quel gain perçoit Luc dans sa comptabilité en fonction de ses installations? Est-ce qu'il y a un prévisionnel peut-être?
Oui, alors en plus, alors, ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'il y a deux types d'installations différentes. On a, on va dire, l'installation qu'on a fait le plus classiquement depuis le début, c'est-à-dire des installations où on vend l'ensemble de l'électricité sur le réseau. Et en fait, on a aussi du coup une première installation, enfin à Luc qui est comme ça, on en a d'autres ailleurs, mais en autoconsommation, où là en fait on a des panneaux sur la mairie qui font directement en fait baisser sa facture d'électricité. Et donc sur un schéma où la mairie n'a pas eu à investir, où donc c'est Diois en tant que coopérative producteur qui fait l'investissement et qui ensuite loue le matériel à la mairie. Et donc on a voulu en faire plutôt un démonstrateur. Donc grosso modo, la mairie paye à peu près l'équivalent de la maintenance quoi, des panneaux. Mais toutes les, ça fait réduire directement sa facture d'énergie. Je saurais pas dire en tout combien la mairie a perçu et perçoit, mais en tout cas elle a perçu aussi une partie des revenus par ce qu'on appelle des aides aux travaux, c'est-à-dire qui ont pu lui permettre potentiellement d'engager certains travaux liés à l'implantation du photovoltaïque, et puis une partie en loyer. Et aujourd'hui, je sais pas en termes de d'euros, ça doit être genre un équivalent peut-être sur toutes les toitures au final un petit millier d'euros, quelque chose comme ça qu'elle doit percevoir, et puis hors économie d'énergie par an.
Sur l'ensemble de la Biovallée, vous êtes agissant aussi sur ce domaine, et est-ce qu'il y a des expériences antérieures à celle de Luc qui encouragent ou qui ont permis justement d'appuyer ces installations?
Ouais, alors les premières installations, les premières mises en service, hein, pour nous, c'est 2018. Une des premières installations qui a été mise en chantier, donc qui est plus tard une mise en service, c'est sur la commune de Barnave, où moi j'ai habité aussi à l'époque. Et En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est toujours quand il y a une volonté communale aussi d'ancrer le projet dans un collectif et dans quelque chose aussi qui a du sens. C'est-à-dire, je fais pas juste du photovoltaïque parce que ça va me rapporter un petit peu de sous, mais aussi parce que je sens bien que je participe à un projet de transition énergétique sur le territoire. Et donc, quand notamment la mairie de Barnave, mais c'est aussi quelque part ce qui se passe à Luc, quand la mairie de Barnave a pu présenter le projet, alors qui était à l'époque de fait beaucoup moins connu, si on peut dire, ou en tout cas on avait beaucoup moins d'expérience, aux habitants, en fait, il y a plusieurs habitants aussi qui ont dit bah, « Nous aussi, on va mettre une toiture photovoltaïque avec 10 watts pour participer à cet effort. » Et donc, ça a été un peu la première opération du genre qui allie communes et habitants la recherche globale d'une transition. Et sur Luc, ce qui est intéressant, et là où ça prend effectivement une dimension un peu nouvelle, c'est qu'on a à la fois la mairie, la communauté de communes, des artisans locaux et des habitants. C'est-à-dire qu'on a vraiment, entre guillemets, toutes les composantes, différents types d'acteurs, on va dire, qui arrivent à se réunir dans un projet comme ça, plus effectivement un bâtiment agricole qui va pouvoir... il n'est pas encore là de fait, mais l'installation elle sera vraisemblablement finie au premier semestre, on va dire, 2023, qui va aussi pouvoir, permettre un nouveau type d'installation sur Luc en 10 watts, et on l'espère aussi pouvoir lancer une opération d'autoconsommation collective, c'est-à-dire le fait de pouvoir vendre en direct à proximité, donc à la mairie, aux habitants aussi, de Luc en 10 watts, une électricité qui soit plutôt moins cher que l'électricité du réseau, mais en plus produite à partir de sources renouvelables et en ultra-local.
L'aspect photovoltaïque de ces capteurs, qui nécessite une technologie et des matériaux dont vous pouvez peut-être nous en indiquer quelques-uns, est-ce qu'il a un avenir pérenne ?
Est-ce qu'il a un avenir pérenne ? Alors déjà sur les matériaux qui composent les panneaux photovoltaïques, beaucoup ce qui fait le cœur du sujet, on va dire, c'est le silicium, qui n'est pas du tout un matériau rare. Hein, c'est quelque chose qui est assez courant sur la croûte terrestre. Après, c'est toujours les histoires de gisements, mais ça reste un matériau qui est relativement abondant. Et puis après, c'est du verre, c'est de l'aluminium, c'est de l'argent, du cuivre pour les connectiques. Sachant que dans un panneau photovoltaïque, il n'y a pas de terre rare proprement dite. Par contre, on retrouve effectivement des matériaux qui vont être potentiellement critiques si on se place dans des trajectoires d'électrification massive, de décarbonation, etc. Donc typiquement, le cuivre peut être un sujet en tant que tel, sans pour autant être aujourd'hui un matériau particulièrement spécial. Sans dire s'il est rare ou pas. Voilà. Donc ça, c'est une première partie. Dans le côté est-ce que c'est pérenne ou pas, il y a deux choses à dire. C'est que ça reste aujourd'hui une industrie extractiviste. On creuse des trous à un endroit sur la planète pour avoir ces panneaux. Voilà, ça, c'est sûr aujourd'hui. Et ça a un impact, ça ne sert à rien de le nier, etc. Effectivement, la question, c'est plus est-ce que ces impacts ils sont acceptables ? Est-ce qu'on fait attention quand même à l'environnement au moment où c'est creusé, au moment où c'est fait, etc. Je remarque aussi qu'on a beaucoup tendance à s'interroger sur l'impact du photovoltaïque, ce qui est très bien, ce qui est relativement nouveau par rapport à d'autres technologies qui produisent de l'énergie et sur lesquelles on se préoccupe peu moins de l'impact, notamment les technologies qui sont en vallée du Rhône et qui font des grands panaches blancs au-dessus des cheminées. Et donc après, savoir si c'est pérenne, il y a aussi la question du recyclage. Et donc là, sur le recyclage, c'est souvent un des endroits où on pense, à tort, je ne sais pas, mais on pense souvent qu'il y a un gros sujet, alors que finalement, il y a des filières en France qui existent, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'envoyer son panneau très loin pour être recyclé. Et on arrive sur des taux de recyclage qui sont, si on est prudent, de 90%, si on est... plutôt sur ce qui se dit classiquement, c'est plutôt 95% de recyclage, ce qui est finalement pas si mal, on va dire, par rapport à d'autres produits manufacturés.
Et peut-être pour compléter, en fait, moi je trouve ça effectivement très intéressant de s'interroger sur l'impact, par exemple, de poser des panneaux photovoltaïques. Est-ce que c'est une solution à tout va ? C'est vraiment l'intérêt, du coup, d'une structure comme DEWAT. On n'est pas des commerçants de panneaux photovoltaïques ou de chaufferies bois ou de développement de parcs éoliens. On est une société coopérative, donc ceux qui prennent les décisions, ceux qui discutent de pourquoi, comment on aurait besoin de développer tel type de projet photovoltaïque, tel type de projet éolien, c'est les sociétaires. Et aujourd'hui, la majorité des sociétaires de DEWAT, c'est les habitants de la vallée de la Drôme, principalement. Et du coup, ce qui est évident, c'est que, bien sûr, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Donc ça, c'est très à la mode en ce moment avec la notion de sobriété. Et donc, c'est aussi évidemment un axe de travail de DEWAT de parler d'économie d'énergie. Encore une fois, on n'est pas des commerçants d'énergie. Avant tout, on est là pour penser avec les acteurs qui habitent à côté de chez nous, qui travaillent à côté de chez nous, la transition énergétique dans sa globalité. Donc ça veut dire aussi penser une maîtrise de l'énergie. Il y a un de nos collègues qui travaille spécifiquement sur ces questions-là, notamment avec les industriels qui ont envie de se poser des questions, de faire des audits énergétiques avec des moyens également de financer les travaux qui pourraient découler du coup des audits que DEWAT peut faire. Et encore une fois, vraiment cette question d'une société coopérative, et donc ça veut dire que c'est vous, c'est nous qui, au sein de DEWAT, se posons la question de quel type de matériaux on veut pour les installations photovoltaïques qu'on va développer. Est-ce que ça paraît intéressant de se dire qu'on met tous nos œufs dans le même panier et de mettre des panneaux photovoltaïques partout, ou qu'à côté de ça, on peut peut-être développer des parcs éoliens citoyens qui nous permettent aussi d'avoir une quantité d'électricité importante et qui évite typiquement d'avoir beaucoup de panneaux qui pourraient être posés au sol ou ce genre de choses. Ça, c'est des échanges, des discussions en fait qu'il faut avoir en fait, parce qu'on a aujourd'hui tous besoin d'un minimum d'électricité pour vivre.
Peut-être que c'est aussi l'occasion de replacer la trajectoire dans laquelle le territoire est engagé et dans laquelle nous aussi on est engagé, c'est-à-dire une trajectoire de territoire à énergie positive, comme on dit. C'est-à-dire le fait de s'engager dans une démarche où on vise à ce que finalement l'ensemble du territoire français soit autonome en énergie sans nucléaire. Donc on s'inspire des scénarios négawatts pour faire ça. Et donc, sur le territoire de Biovallée, hein, ça veut dire grosso modo à la fois multiplier par 4 la production d'énergie renouvelable actuelle. Donc ça paraît beaucoup comme ça. Mais dans le même temps, ça veut dire aussi diminuer par 2 les consommations. Et donc, même en faisant tout ça, on va dire, on s'inscrit dans un objectif, alors non pas juste d'autonomie, mais de territoire à énergie positive, c'est-à-dire que de produire suffisamment aussi d'énergie pour les territoires qui ne pourront pas être autonomes en énergie. C'est-à-dire, typiquement, la ville de Lyon ne sera jamais autonome en énergie. Il faudra donc que d'autres territoires produisent pour elle, mais aussi en échange de choses qui pour nous, on a quelque part besoin aussi de Lyon pour certaines choses. Donc ça a aussi du sens. Mais donc, en tout cas, il y a vraiment cette idée que les économies d'énergie, il faut les faire, c'est un vrai chantier. C'est pour ça aussi qu'on a des gens qui travaillent sur l'efficacité énergétique. Mais si on veut se passer des énergies fossiles et du nucléaire, l'idée, c'est quand même une multiplication par 4 de la production. Et donc, ça passe effectivement par un mix diversifié d'énergie dans lequel le bois, notamment sur le DEWAT, a toute sa place, puisque grosso modo, si on regarde à l'échelle de Biovallée, majorité des ressources en bois sont sur le DEWAT, mais c'est là aussi où c'est intéressant d'avoir des citoyens qui s'emparent du sujet, parce que l'idée c'est pas d'exploiter du bois pour exploiter du bois, mais plutôt de se dire quels sont les enjeux autour du bois et du bois énergie, de façon à ce que y ait pas de désertification des forêts, que ça soit bien géré, que la biodiversité soit largement considérée et qu'elle ait toute sa place. Donc il y a un peu tous ces enjeux-là. On n'est pas justement que sur un projet énergétique en tant que tel, mais il y a un vrai volet de reprise en main de la façon dont on produit les choses.
Alors, ce mardi à 11h, ça commencera aussi avec une découverte du photovoltaïque et de l'investissement citoyen, une session un peu pédagogique pour les personnes qui seront présentes.
Oui, certainement, et les gens vont apprendre des choses. C'est sûr que, alors déjà, s'ils ont écouté toute l'émission, ils auront appris des choses sur le photovoltaïque, mais il y a des choses qu'on leur réserve hein, pour les gens qui seront présents, bien sûr. Ils en apprendront évidemment d'autres. Et puis après, effectivement, il y a tout le volet. Alors même si on est un territoire qui accueille pas mal de sociétés coopératives d'intérêt collectif, mais c'est aussi la découverte de... c'est un de nos... Un de nos boulots, finalement, c'est de créer des outils pour que les gens s'emparent de la transition énergétique. Et donc, dans ces outils-là, il y a aussi des outils financiers, il y a des outils de gouvernance collective, qui sont au-delà des outils, on va dire, purement techniques de mettre des panneaux sur des toits.
Et puis, sur l'investissement effectivement citoyen, aujourd'hui il y a à la fois des habitants, donc des citoyens comme vous et moi qui sont sociétaires de DWatt, il y a certaines entreprises en fait, et on a également eu le soutien à travers le programme d'État Territoire Innovation Biovallée, en fait de plus grands financeurs, typiquement la Banque des Territoires par exemple, Énergie Partagée, investissement et également le Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Et ça permet de, en diversifiant en fait, en associant des financeurs qui ont des capacités budgétaires plus importantes, de nous donner encore plus de moyens en fait pour développer justement des projets d'envergure qui permettent de répondre à cette démarche territoire à énergie positive. Et ça, toujours évidemment, avec un souci de garder une gouvernance qui associe avant tout les acteurs du territoire. Et c'est eux qui ont le pouvoir décisionnaire au sein de la société coopérative.
Donc, il y aura une visite des installations opérées. Ça sous-entend qu'il y a divers modes d'installation ou de taille aussi en fonction d'une demande.
Ouais, c'est-à-dire que nous, on commence à agir à partir de 50 mètres carrés de toiture. Alors, quel que soit le porteur, hein, un particulier, une mairie qui veut équiper sa salle des fêtes ou sa mairie, etc. Et puis, aujourd'hui, par contre, on a beaucoup plus d'échanges et de travail sur qu'est-ce qu'on fait de cette énergie. C'est-à-dire que, à Luc, on verra, hein, je l'ai dit tout à l'heure, deux façons de valoriser, à la fois la vente dans le réseau et à la fois l'autoconsommation. Et là, on diversifie d'autant plus notre offre, on va dire, de la façon dont on intervient, notamment chez les particuliers, en essayant d'intégrer quasi systématiquement en fait, de l'autoconsommation. Ce qu'on essaye de faire en ce moment, c'est plutôt de dire que si vous nous louez votre toiture, parce que c'est ça, les modes d'intervention, c'est essentiellement ce qu'on appelle la location de toiture, c'est-à-dire qu'on passe un bail avec le propriétaire et puis on vient faire, nous, tous les investissements, toutes les démarches, etc. Enfin, on s'occupe de tout. Et par contre, au lieu de vous verser un loyer, on oriente vers plutôt la réalisation ou le fait qu'on vous paye un kit autoconsommation qui va vous permettre, vous, de faire des économies d'énergie, d'une part, et d'autre part, d'être en partie protégé contre les évolutions des prix de marché de l'électricité. Sachant que donc, sur l'autoconsommation, il faut faire attention à ne pas vouloir être... On peut vouloir être complètement autonome dans certains cas, etc. Mais d'un point de vue... logique globale, ça peut être pertinent de couvrir tout ce qu'on appelle ces talons de consommation, donc c'est un peu les consommations qui sont tout le temps là, par quelques panneaux solaires, donc nous on va vous permettre, en louant votre toiture, de pouvoir avoir accès à ce kit autoconsommation et effacer tout ce talon de consommation et du coup d'être relativement protégé sur les usages de base. Et puis les choses qu'on lancera très prochainement, notamment à Die, c'est des achats groupés de kits autoconsommation, dans une démarche collective. C'est encore une fois, vous n'avez pas besoin de nous pour acheter sur internet un kit autoconsommation. Si vous voulez le faire, faites-le. Et par contre, nous, c'est aussi l'idée de se dire je commence par quelques panneaux en autoconsommation, mais en fait j'ancre quand même ma démarche dans un projet de territoire.
À la suite, il y aura les témoignages des sociétaires dont vous parliez, Émilie, et la rencontre des partenaires dont certains ont été déjà présentés tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres à signaler? Et puis, quelle est la place des collectivités, celle du département et la région, dans cet aspect du renouvellement du bois et de cette énergie durable et renouvelable?
Alors, parmi toutes les questions, il y a donc je vais prendre. Non, mais c'est, je vais prendre sur les collectivités. On a les trois communautés de communes de la vallée qui sont au conseil de surveillance, enfin chez nous, donc qui sont vraiment partie prenante de la définition de la stratégie, mais du bon encadrement de la stratégie qui est menée aux côtés notamment des habitants. Le département, l'énergie n'est pas trop dans le champ de compétences du département, ce qui fait que le département est relativement absent aujourd'hui de notre structure. Sans que ce soit les critiquer pour. Et la région en fait a soutenu plusieurs fois Diwas par de la subvention, une subvention d'investissement, notamment sur les premières installations photovoltaïques. Et là, va soutenir aussi le gros projet qu'on est en train de mener, puisque le chantier va démarrer là mi-octobre, très vite, sur l'entreprise Nateva, donc sur les bâtiments actuels, puisque tous les toits actuels vont être équipés de photovoltaïque, avec l'idée pareil de vente en direct de cette électricité aux habitants de Die. Voilà.
Tout ça se terminera avec un apéritif en fin de matinée qui se déroulerait vers quelle heure?
Donc, on pense accueillir tous les participants pour l'apéritif autour de 12h30. Ça dépendra un petit peu des questions des uns et des autres et de leur curiosité lors de la balade dans Luc pour voir un peu les différents toits qui ont été équipés en photovoltaïque.
Et de la météo.
Oui. Mais dans tous les cas, on a une solution de repli pour la météo. Donc, il y aura potentiellement de la clairette de Die.
Parmi nos sociétaires, notamment, on a des producteurs de clairette.
C'est ça.
J'avais envie de faire un crochet avec Éolien, hein, cet atelier, à partir de 18h, hein, le 23 novembre. C'est un aspect, c'est comme vous le disiez, donc un groupe de travail ouvert. Ouvert à qui? Et puis, est-ce que c'est en parallèle aussi avec cette politique d'adapter l'éolien en fonction des demandes d'énergie?
Alors, c'est en fait, donc, comme on l'expliquait, en termes de fonctionnement coopératif, on développe des groupes de travail en fonction de l'intérêt de nos sociétaires. Là, typiquement, il y a un groupe de travail qui a été développé justement sur l'éolien. À la fois identifier les impacts, les enjeux qui sont globaux autour de l'éolien, mais aussi du coup sur le territoire de la Biovallée. Donc il y a déjà un groupe d'une dizaine de sociétaires qui travaillent sur ces questions depuis une bonne année. Et en fait, ils ouvrent leur réunion donc du 23 novembre pour tous les curieux et curieuses qui auraient envie de s'intéresser un peu plus à ces enjeux-là, qui auraient des avis, qui auraient envie de s'informer. J'ai envie de dire, c'est ouvert à tous ceux et à toutes celles qui sont intéressés par les enjeux de l'éolien citoyen et de l'éolien territorial. Donc là, on parle vraiment d'aller vers une idée de développement de l'éolien sur la Biovallée. Et comme l'expliquait Jean-Baptiste un peu plus tôt, c'est également des réflexions qu'on porte avec les trois intercommunalités.
Ça se déroulera à l'atelier, hein?
Oui, c'est ça. Donc dans le cœur de Die, et vous avez sur notre site internet, dans la partie calendrier, une petite information pour avoir tous les détails si vous n'avez pas retenu. Et on vous demande également de vous inscrire. Donc vous avez le lien pour vous inscrire dans la partie calendrier de notre site internet pour cette réunion du 23 novembre à 18h.
Et puis pour s'inscrire pour cette réunion du mardi 18, il y a la possibilité d'écrire à emily@diwatts.fr. Diwatts, ça s'écrit DWATS.
Exactement, c'est pour prévoir le nombre de bouteilles de clairette.
Eh bien, en tout cas, Émilie Lapran et Jean-Baptiste Boyer, je vous remercie tous deux d'être venus nous parler d'Diwatts sur RDY et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.